Pepi, ale...
Cela fait maintenant plus d'un an que Réseau Femmes à l'abri 26 existe au pays de Bourdeaux et ailleurs dans la Drôme. L'association a pour mission de soutenir les femmes en difficulté sur le territoire drômois. Elle apporte son soutien par de l'hébergement, de l'accompagnement social, adapté aux réalités de la vie en milieu rural et agit aussi en soutien aux questions relatives à la prostitution, toujours dans la Drôme. Anne Ocaïs, vous êtes la responsable des programmes menés par cette association, Réseau Femmes à l'abri 26. Vous étiez déjà à ce micro le même il y a un an à peu près, en 2022, et l'association a bien grandi depuis, car la précarité féminine n'a, elle, toujours pas régressé. Est-ce que peut-être on peut rappeler, pour commencer, quelles sont les causes majoritaires, en tout cas les causes les plus souvent rencontrées, de précarité pour les femmes en général ?
Alors, tout ce qui concerne la précarité, c'est lié à l'emploi, c'est lié à la responsabilité, la prise en charge des enfants, c'est lié à des contrats partiels, à des activités adaptées à la vie de famille qui pèsent plus sur le dos des femmes en général et en particulier en milieu rural. Il y a aussi la question de la mobilité, la distance avec les écoles, la possibilité d'avoir ou non le permis de conduire qui est minoritaire par rapport aux hommes sur un même territoire. Les femmes ont moins le permis de conduire que les hommes. Donc il y a plusieurs critères qui font que la vie personnelle a un impact évident sur la vie professionnelle et donc matérielle des femmes, en particulier sur le territoire rural comme celui de Bourdeaux-Dulphy.
Ce sont des critères qui sont un peu passés sous silence, qui sont un petit peu invisibilisés. C'est l'accumulation de tas de choses, en fait.
Oui, on peut faire l'hypothèse que c'est parce que c'est une organisation normale, dans le sens majoritaire, de la répartition des responsabilités au sein des familles. Mmh. On peut se dire que les femmes prennent en charge ces choses-là, que les hommes prennent en charge le fait de faire rentrer de l'argent dans le milieu familial et les femmes sont en charge des responsabilités plus domestiques. Et donc ça crée en effet un impact également sur tout ce qui est question de patrimoine et de propriété, parce qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie des yaourts vides. Je ne sais pas si vous en avez entendu
parler. Je ne connaissais pas le nom, mais je crois la connaître.
Bah, qui consiste à dire que monsieur a plus de capacité financière. Donc monsieur prend en charge tout ce qui est financement du patrimoine et madame a moins, mais plus de temps. Et donc elle prend en charge les questions domestiques. Et quand il y a séparation, elle s'en va avec les yaourts vides, c'est-à-dire tout ce qui est choses périssables qu'elle a prise en charge pendant des années. Et monsieur s'en va avec les murs.
Ce sont ce type de difficultés trop souvent rencontrées par les femmes qui sont à l'origine de votre création en association. Il y a de ça à peu près plus d'un an et demi. C'était à l'époque le moyen de réunir toutes les forces possibles pour aider deux femmes, c'est ça ?
Alors, au tout début de l'activité, c'était la mise à l'abri de femmes en danger de sans-abrisme. Et elles étaient exilées parce que, en général, les personnes étrangères qui sont en cours de régularisation n'ont pas de possibilité d'hébergement d'urgence du fait de leur situation administrative. Et donc, les deux premières qu'on a accueillies ont obtenu la protection internationale et elles sont en voie d'être complètement autonomes. Donc, on s'est au début fédérées autour de ces deux femmes-là. Et après, les idées sont venues d'augmenter l'activité et la nature de nos activités et de nos modes d'action par des retours de terrain, parce que je suis travailleuse sociale, il y a d'autres travailleuses sociales qui sont venues intervenir pour étayer un peu le projet, penser le projet et faire des propositions de terrain sur ce qui pourrait être bénéfique pour les femmes qu'on a pu constater, nous, dans le cadre de notre parcours professionnel, institutionnel. Et donc, on a essayé d'évaluer où il y avait des manques, à quel endroit il y avait des manques et comment, nous, on pouvait y répondre. Donc, la première partie était complètement indépendante et ça aurait pu s'arrêter là, Réseau Femmes à l'abri. Ça aurait pu être juste héberger deux femmes et leurs enfants et une fois qu'elles obtiennent leur autonomie, on arrête. Mais en fait, on a décidé que le projet étendu serait porté par l'association parce que c'était cohérent.
Et pourtant, vous avez aussi fait de l'accueil d'urgence pour une ou deux autres femmes.
Exactement. On est monté jusqu'à quatre femmes, donc trois à l'appartement, qui sont toujours trois à l'appartement parce qu'il se trouve que structurellement, il peut accueillir correctement, dignement trois femmes et leurs enfants pour celles qui en ont. Et il y avait une femme chez l'habitant avec son enfant qui, pour l'instant, est en Italie, qui reviendra dans un appartement parce qu'on va louer un deuxième appartement à Bordeaux, on espère, à l'automne.
Alors, ces deux premières femmes, l'une albanaise, l'autre macédonienne, est-ce qu'elles ont enfin réussi à poser leurs valises et à vivre dignement ?
Alors, c'est en voie 2, c'est-à-dire que tout prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, tout est aligné. C'est-à-dire que voilà, la situation administrative a été régularisée, elles ont été reconnues dans le besoin de protection. Elles ouvrent tout ce qui peut leur permettre de s'installer. Mais les démarches prennent du temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le logement, c'est un gros souci dans la Drôme. Donc, ça prend du temps de trouver son appartement. Mais c'est en voie 2, parce que là, il y en a une qui... On attend la réponse dans les jours à venir, mais qui, normalement, a un appartement pour elle qui va arriver là.
Alors pour l'hébergement, c'est-à-dire la location des appartements des femmes que vous avez accueillies, vous avez fait appel à des dons privés de particuliers, ça c'était quand même un pari. Est-ce que vous avez réussi, enfin comment vous avez fait déjà pour qu'on puisse, que les auditeurs et les auditrices se rendent compte, et est-ce que vous avez réussi à recueillir des engagements de dons pérennes?
Oui, on a des donateurs réguliers, fidèles, qui continuent de donner chaque mois et qui sont hyper tolérants avec le fait qu'on est dans le jus complet, qu'on les informe pas beaucoup sur ce qui se passe et qu'on les remercie pas à hauteur de ce qu'ils font. Sans eux, ce serait pas possible. On a des donateurs ponctuels qui donnent aussi des sommes petite, moyenne, grande, et tout mis bout à bout, ça nous permet de financer des appartements, parce que il y a des choses qu'on va faire financer par des fonds publics, il y a des choses pour lesquelles il est important pour nous d'avoir une indépendance économique, parce que, par exemple, pour l'hébergement, si on était financé par l'État, il y aurait des critères d'accueil. Et nous, on n'a pas envie de critères. Nous, on a envie qu'une personne qui a besoin, elle soit accueillie le temps qu'elle a besoin d'être accueillie, une femme.
Et sans qu'on lui demande trop de choses non plus, en fait, parce que c'est une lourdeur accumulée, non, cette lourdeur
tout
administrative aussi.
Tout à fait. Et puis, ça prend plus de temps que sur le papier. Il y a un décalage entre ce qui est
annoncé,
imaginé, envisagé. Il y a toujours des mauvaises surprises. Et du coup, ça prend plus de temps que prévu. Donc, on a besoin de prendre le temps et de les accueillir le temps nécessaire. Et pour ça, ça nécessite une indépendance économique. Donc c'est pour ça que notre modèle, ça va être de financer tout ce qui est appartement par des fonds privés, que ce soit des fondations qui acceptent ce fonctionnement-là, que ce soit des personnes privées qui donnent soit mensuellement, soit ponctuellement, ou que ce soit par l'organisation d'événements. Là, ça fait un moment qu'on n'en a plus refait, mais ça a pu être vraiment quelque chose d'indispensable au niveau économique.
De tenir des buvettes.
Exactement, d'organiser des petites soirées, des choses comme ça. Et ça garantit une liberté au niveau des critères. Et par ailleurs, parce qu'on s'inscrit aussi dans des réalités de terrain, on vient d'être soutenu du coup par la préfecture et par la Fondation de France, on va pouvoir agir de manière un peu plus institutionnelle sur nos activités étendues dont on n'a pas encore parlé, mais qu'on va présenter.
Parler, oui, donc dans des champs d'action spécifiques en fait. La
c'est
Fondation
ça.
De France, c'est ça, c'est sur appel à projet.
C'est ça.
Vous avez répondu à quel type d'appel à projet, du coup?
Là, c'était autour des questions d'exil. C'est-à-dire que parmi tout le panel des femmes en difficulté, les plus en difficulté sont celles qui sont en situation d'exil et au niveau de la situation administrative pour lesquelles c'est compliqué. Donc, il y a non seulement le traumatisme de l'exil, du parcours, l'impossibilité d'accès à tout ce qui est éléments essentiels. Donc, l'habitat, la santé, la nourriture, c'est très compliqué. Mais il y a également des dangers de l'ordre de la prostitution, alors soit par des réseaux, soit celles qu'on croise majoritairement, c'est de leur propre chef, parce qu'elles n'ont pas d'autres possibilités
plus de
que
ressources.
Ça. Elles n'ont pas de ressources. Et les petits travaux qu'on peut trouver, c'est plus facile quand on est un homme. Et du coup, quand on est une femme, il y a des personnes qui observent, qui est en difficulté, qui a des enfants, qui n'a pas le choix, et qui viennent faire des propositions de cet ordre-là. Donc il y a des questions qui sont liées à l'extrême pauvreté, qui déclenchent une prostitution hors cadre de réseau ou hors cadre de prostitution de rue. Mais ça reste quand même des sujets. Donc c'est des personnes qui sont dans des situations extrêmes et pour lesquelles, donc, que ce soit l'hébergement ou que ce soit le suivi social ou que ce soit le soutien quand il y a une situation de prostitution, sur ces sujets-là, on a demandé de l'aide à la Fondation de France pour qu'elle nous aide à avoir... du personnel qui vient aider ou des moyens matériels d'activité.
Et c'est une aide qui s'étend sur combien de temps, qui vous sécurise à cet endroit-là, vous-même, en tant qu'association, pendant combien de temps?
Alors là, c'est pour cette année, pour 2023. Et la préfecture, c'est deux années, 2023 et 2024.
Donc c'est un tout petit peu pérenne quand même.
Oui, et puis ça va nous permettre, ça va faire tremplin, ça va nous permettre de structurer pour avoir ensuite des partenaires pérennes.
Alors justement, je voulais aborder cet aspect-là. En quoi c'est important de se professionnaliser lorsqu'on travaille dans l'accompagnement social? Vous êtes travailleuse sociale, aussi
médiatrice
artistique. Et j'imagine que depuis un an et demi, vous nous disiez il y a un an que vous débutiez en fait sur le terrain. J'imagine que vous vous êtes professionnalisée. En quoi ça a changé les choses depuis un an et demi?
Alors, en tant que travailleuse sociale, je travaille depuis 2011. Donc, je suis un petit peu rodée sur ces sujets-là. J'ai tout appris dans le cadre d'un remplacement un peu long dans un lieu qui accueillait des femmes en difficulté. Donc, toute l'année 2018, un petit bout de 2019, j'étais là-bas et là, j'ai tout appris. Et ensuite, ça se rôde sur le terrain. Quand je disais qu'on commençait, c'était qu'on allait commencer tout ce qui était activité itinérante. On n'avait pas encore pratiqué. Et la professionnalisation, elle a deux mérites. Elle a le mérite de la connaissance des réalités de terrain, des dispositifs, des mouvements psychiques. Par exemple, une femme victime de violence, elle va en moyenne faire 7 tentatives de départ du logement pour que la 8e aboutisse. Donc c'est une moyenne, il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins. Mais quand on sait ça, par exemple, on peut accompagner les... On peut tout border pour qu'un départ soit organisé en urgence, avoir la boule au ventre, se dire est-ce que ça va marcher. Puis en fait, elle va le planter, ce rendez-vous-là. Elle va
ça ne sert peut-être pas à ce moment-là de faire pression à cet endroit-là, en fait.
C'est ça. Mais du coup, quand on est formé ou expérimenté, on est prévenu que ça peut se passer. Et on est sans jugement et on sera toujours là. Et si jamais il y a une 9e, 10e, 11e fois accompagnée, on sera encore là. Donc il y a des connaissances techniques, il y a des connaissances de processus psychique. Et très bêtement et très pragmatiquement, il y a une libération de temps. C'est-à-dire que là, je suis bénévole à temps plein et que ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir longtemps. Donc là, ça tient un temps quand les réalités personnelles permettent de le faire, mais ça ne tient pas longtemps. Donc, débloquer un salaire, ça débloque du temps libre.
Et voilà, ça, c'était ma question suivante. Vous anticipez très bien. donc, pas encore de salariat, mais c'est en devenir, ça va arriver.
Voilà, parce qu'on a eu des réponses positives. Donc, comme je vous disais, de la préfecture, de la Fondation de France. Donc, l'idée, ça va être d'embaucher, moi, sur le terrain, une élève assistante sociale en formation pour sa 3e année en alternance, de façon à ce que, quand on a les reins suffisamment solides, on embauche de manière pérenne cette personne, si elle le souhaite, et puis sinon, quelqu'un de la même fonction.
Du coup, l'équipe de l'association s'est agrandie depuis le début, même en bénévoles qui ont du temps sur le terrain ou...
Bénévoles qui ont du temps sur le terrain, on est. Donc, elle s'appelle Éléonore, cette jeune femme, Éléonore qui est stagiaire actuellement, et moi. On est là toutes les deux sur le terrain, que ce soit pour le suivi social des appartements, les permanences. Sur les maraudes, il y a deux autres bénévoles qui nous rejoignent. D'accord. Donc, une juriste qui s'appelle Emma, qui est spécialiste du droit des étrangers et qui commence à se renseigner sur le droit des femmes et des familles. Et une infirmière qui s'appelle Julie, qui, pour l'instant, on est au tout début, donc elle n'a pas encore eu l'occasion d'être en soutien sur les questions de santé. Si, elle participe, mais pour l'instant, on n'est que dans la mise en lien.
D'accord.
Donc, pour l'instant, sa casquette à elle n'a pas été sollicitée. Celle de la juriste, si, déjà, parce que finalement, les questions de papier, elles se posent immédiatement. Mais en tout cas, ça nous permet d'être une équipe pluridisciplinaire pour répondre aux besoins de tout ce qui concerne les maraudes sur les questions de prostitution de rue.
Alors justement, vous avez lancé en 2023 des permanences sociales, mais aussi des maraudes. On va expliquer ce que c'est, en plusieurs lieux qui permettent aux femmes en difficulté de venir se confier tout à fait anonymement. Comment ça se passe concrètement? Alors, ces permanences et ces maraudes, j'imagine que ce sont deux choses différentes.
Très différentes, parce que ça ne s'adresse pas ni aux mêmes personnes, ni aux mêmes besoins. Donc, d'abord, les permanences sociales, ce sont des temps où on est présente à un endroit déterminé. Donc là, à Diolfi, ça va bouger.
C'était le jeudi matin.
C'était le jeudi matin, ça restera le jeudi matin, mais c'est le lieu qui risque de bouger parce que c'est un lieu trop visible. Donc là, il est probable, ce sera confirmé, on vous le confirmera, que ce soit sur la place du marché les jeudis matins, dans un endroit un peu reculé en face de l'hôpital. Et donc, on est présente pendant 3 heures de temps et la personne peut se présenter sans rendez-vous. Et donc là, on fait un petit point sur où elle en est. On prend éventuellement un rendez-vous individuel à un autre moment pour soit accompagner physiquement, il y a des lieux dans lesquels c'est difficile d'aller seul, comme le planning familial ça s'appelle le centre de santé sexuelle maintenant, la gendarmerie pour un dépôt de plainte ou pousser la porte du CIDFF, parce qu'on travaille qu'avec d'autres associations, on ne fait pas tout toute seule, on travaille avec d'autres associations. Et donc il y a des juristes super compétentes au CIDFF de Valence.
C'est quoi le CIDFF?
C'est une association nationale qui a des antennes en région, qui s'appelle le Centre d'information de droit des femmes et des familles. Et du coup, il y a une prise en charge des femmes en général, sur plein de sujets, et y compris sur des sujets juridiques qui sont ceux qui se posent en premier quand il y a une séparation dans le cadre de violences conjugales. Comment on fait pour les enfants? Quel droit il a pas? Comment on fait pour la maison? Quel droit il a pas? Est-ce que c'est moi qui pars? Est-ce que c'est lui qui part? Jusqu'où j'ai le droit d'aller? Nous, on a des compétences limitées là-dedans, donc on s'adresse à des spécialistes.
Donc, vous, dans le cadre de ces permanences, vous pouvez orienter, vous pouvez aussi accompagner.
Exactement. Mmh. Parce que quand on sent que c'est un peu difficile à faire toute seule ou quand on sent que partir de la maison sans être trop visible, que ce soit au nombre de kilomètres au compteur de la voiture ou que ce soit parce qu'on n'a pas de voiture, nous, on peut emmener physiquement la personne jusqu'à Valence et assurer ce genre de rendez-vous-là. Donc, on essaye de s'ajuster. Soit on peut traiter la demande dans le camion au moment où la question se pose, soit on fixe un rendez-vous et on essaye de traiter la demande soit avec des partenaires, soit nous-mêmes, mais un temps plus opportun. Mmh. Donc ça, c'est pour les permanences sociales. Et ça recouvre plein de sujets, c'est-à-dire que ça peut être les ouvertures de droits. En gros, pour nous, accéder à l'exercice de ces droits, ça permet l'autonomie. Donc, avoir ses moyens, donc ouvrir les droits, c'est pour ça qu'on est des travailleuses sociales, c'est à cet endroit-là que c'est pertinent, que ce soit, je ne sais pas, par exemple, quand il y a une mesure de protection de l'enfance et qu'on ne sait pas exactement comment on fait pour être représenté par un avocat à l'audience, est-ce que tout mon récit a été entendu, est-ce que, etc. Nous, on va pouvoir aider aussi pour ça. Ça peut être remplir la grille de bourse. Bon, maintenant que ça ne se fera plus, parce qu'apparemment, ce sera automatique, mais ça pouvait être remplir la grille de bourse pour les enfants, pour la scolarité, ou inscrire au judo, ou voir les bons CAF, où est-ce qu'on peut aller en vacances. Ça peut être des choses aussi banales que ça, qui permettent déjà de savoir faire, d'accéder à ses droits, d'être en lien. Et ensuite, nous, ça nous permet d'évaluer un petit peu la santé de cette femme, la santé globale au niveau individuel, personnel, relationnel, etc. Et petit à petit, à force de se voir, ou alors directement, si elle vient avec ce sujet-là, ça permet de soulever la question des violences, s'il y en a. Donc, c'est assez global. Il y a des collègues qui font ça à Valence, qui se sont comparés à quelque chose que je trouve assez pertinent. Elles se disent, on est un peu la médecine générale. Donc, la personne vient en disant, j'ai bobo là. Et nous, on dit, soit je sais le faire, soit allez voir tel spécialiste.
Il y a tel relais, telle chose, tel endroit pour vous.
Exactement.
Et vous n'êtes pas seul.
Et vous n'êtes pas seul. Ça, c'est le truc qu'on dit le plus. Vous n'êtes pas seul. Tenez-nous informés. Mais on se base sur la libre adhésion. Il y a absolument aucun mandat, elles n'ont absolument aucune obligation de venir nous voir, ni de donner leur vrai nom, on s'en fiche, elles peuvent s'appeler Gilberte ou comme elles veulent, ça n'a aucune importance, et elles ne sont pas obligées de nous rendre compte de quoi que ce soit, donc c'est une histoire de libre adhésion, ça c'est quelque chose de très important.
C'est important à savoir parce que ça peut être tout à fait ponctuel aussi.
Exactement.
Et ne pas donner lieu après à tout un accompagnement.
Tout à fait, elles peuvent venir une fois, puis plus jamais, elles peuvent venir toutes les semaines, c'est pas un souci.
Boire un café.
Oui.
Par exemple.
Exactement.
Qui a des vertus assez importantes.
C'est ça.
Et si on parle des maraudes, là, c'est plus spécifiquement lié à la prostitution en
Exactement.
Général. C'est Comment ça se passe ?
On est dans notre petit camion. Là, pour le coup, le bureau n'est pas en place parce que dans notre petit camion, le bureau, il est amovible. Donc, dans les permanences, le camion est à l'arrêt, le bureau est en place et les personnes montent dans le camion et on traite les demandes qu'on a à traiter. Et dans le cadre des maraudes, on descend du camion et on va à la rencontre des dames qui sont, pour le moment, parce que c'était l'hiver et un peu le printemps froid, en camion. Puis après cet été, on verra arriver celles qui sont à pied. Donc dans ces cas-là, on prend le contact, on distribue des préservatifs, un petit peu, une petite collation, un petit café, un petit gâteau, un truc comme ça. On prend des nouvelles et on se met à disposition. Et du coup, là, il y a deux rendez-vous qui ont lieu. Un qui, justement, d'accompagnement à la CSS, Centre de Santé Sexuelle. Alors, je n'ai pas plus des acronymes. Pour faire un check-up de bilan de santé, en fait, global. Il y en a une qui avait des questions juridiques. Donc, comme je vous disais, bref, du coup, on ajuste, en fait, on peut les voir aussi en dehors des temps de maraude. On prend des rendez-vous et on se cale.
Ça existait déjà, ça, dans la Drôme, le fait d'aller à la rencontre des femmes qui se prostituent en direct ?
Oui. Ça existe, ça existe par justement l'Olivier Arcade, là où je vous disais que j'avais appris absolument tout ce que je sais faire actuellement. C'était hebdomadaire à l'époque. Et donc moi, j'étais sur le poste en remplacement qui s'occupait de ces questions-là. Donc c'est là que j'ai appris aussi comment ça se fait, la mise en relation, où se trouvent les lieux, à quoi il faut être attentif, etc., etc. Et puis, ils sont passés à tous les 15 jours. Et puis, des fois, il y a eu des trous, il y a eu des interruptions parce qu'il y a eu des histoires de moyens humains qui sont posés. En tout cas, il y a eu une réduction des moyens humains. Et nous, on est venu compléter. C'est pour ça aussi qu'on propose, déjà parce qu'on ne peut pas faire plus, mais qu'on propose tous les 15 jours. Et on propose un autre territoire sur lequel ils n'interviennent pas, c'est-à-dire que nous, on est à Valence et on va jusqu'à l'Ardèche, le long de la Nationale 7, où il y a du monde. Et on va également à Montélimar et alentour. Donc, le sud n'était pas encore visité.
Couvert.
Il y a moins de monde, ça, clairement. Mais en tout cas, il y a quelques personnes et ça mérite qu'on y aille. Et par exemple, pour Pour elles, c'est beaucoup plus difficile la mise en lien parce qu'elles connaissaient pas le fait qu'il y ait des assos qui viennent à la rencontre. Donc il y avait une méfiance, il y avait.
Oui, comment ça s'est passé effectivement les premières fois on débarque là avec son van.
Eh ben ni elle ni nous n'étions à l'aise en fait en réalité. Et il y en a une qui a même refusé les préservatifs parce qu'elle comprenait pas trop ce qu'on faisait. Puis celle d'à côté qui nous dit ah mais vous êtes comme Kabiria. Kabiria c'est une association à Lyon qui s'occupe de ça. Donc dans un contexte tout à fait différent parce que c'est urbain et grande ville en plus. Mais du coup, elle connaissait le principe. Et donc, elle a pu détendre aussi sa collègue d'à côté. Et je pense que plus on se verra et plus ce sera facile. Mais sur le coup, c'était... Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent, en fait? Qu'est-ce qu'elles vont nous demander, celles-là? Parce qu'elles ne comprenaient pas. Mais tu me donnes du café, tu me donnes un jus. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Donc, il y avait un petit truc un peu mal à l'aise. Et puis après, petit à petit, à force de se rencontrer, je pense que les choses, elles vont se faire plus simplement. Mais voilà, là, on est vraiment dans l'étape de la mise en lien. On prend des nouvelles, on rigole parce que le petit chien, parce que ci, parce que ça. Et après, s'il y a des besoins qui émergent, on y répondra. Il y a notamment des besoins qui ont été formulés de bilan de santé. Il y a des tests minutes qu'on peut faire. Et du coup, ça nous tient à cœur de pouvoir faire des tests minutes depuis notre camion où elles font un bilan des différentes MST en se piquant le bout du doigt.
Voilà. C'est très simple, facile d'accès.
C'est très facile d'accès. Il faut que ce soit un personnel de santé qui le réalise. Et donc là, on a comme projet de monter ce genre de proposition-là pour les dames de Montélimar, parce que celles de Valence-Lon, déjà grâce à l'autre association dont je parlais, elles en bénéficient déjà, donc on va proposer ça à celles de Sud.
Alors, pour les permanences, il est important de signifier que votre van, donc très accueillant, très beau, très neuf aussi, se retrouve à Dieulfi, donc le jeudi matin.
Oui.
De 8h30 à 11h30.
C'est ça.
L'endroit va peut-être bouger. Et aussi à Cré, les deuxième et quatrième mardis du mois, c'est ça?
Exactement, c'est tout à fait ça. Et là, à Cré, on est dans la cour de Cré Actif et du CCAS, qui est juste à côté du cinéma L'Éden.
De 9h à midi.
De 9h à midi.
Et donc, on rappelle, dans les deux cas, aide administrative, soutien juridique, écoute, accueil, orientation, mais surtout anonyme et libre, gratuit.
Exactement. Et avec une compréhension des mouvements que peuvent générer le fait de vivre des violences et la confusion que ça peut générer. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne jamais avoir honte de ce qu'on est en train de vivre. Mmh. Et même s'il y a des mouvements d'aller-retour et même s'il y a des mouvements de confusion, l'idée, c'est que la honte n'existe pas au moment où elle s'adresse à nous.
Et de se réapproprier certainement sa propre vie.
Exactement.
En quoi, de façon générale, cet accueil inconditionnel, libre, anonyme et gratuit permet-il de lutter contre les violences de genre?
Alors, je pense que c'est... Je pense que quand on prend un rendez-vous, c'est qu'on a déjà compris qu'on était pris dans le tapis des violences, en danger, et qu'on a identifié, et qu'on a identifié la nature des violences, et que là, il s'agit presque d'un premier palier. Les dames qu'on a commencé à rencontrer, elles viennent pour vérifier. Non, mais je ne suis pas vraiment victime. Je vis des choses qui ne sont pas très agréables, et ça. Et elles nous exposent. Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ce que j'en pense, et alors, en fonction de là où elles en sont, évidemment qu'on ne va pas arriver. Oui, c'est très grave, et aller porter plainte immédiatement. Il y a un processus aussi de... Comment on renvoie par des questions, comment vous vous sentez quand vous vivez ça? Donc là, il y a quelque chose qui est en train de vous déranger. Donc, et l'idée, c'est de les inviter à venir répéter et réévaluer autant de fois que nécessaire, parce que des fois, il faut répéter à un interlocuteur le fait qu'on ne se sente pas bien pour identifier que non, ça n'est pas acceptable, parce qu'il peut arriver qu'on le dépose une fois, puis qu'après on minimise, et puis qu'après on ne revienne plus dessus. Donc notre constance, elle va permettre aussi de pouvoir revivre le même entretien s'il faut 4 fois, 5 fois, 10 fois, peu importe. Mais en tout cas, on est là et on est tout le temps là. Et si elles partent et qu'elles reviennent et qu'elles repartent, on sera encore là. Donc il y a quelque chose dans cette inconditionnalité et dans cette régularité qui permet de garantir une présence, une écoute et une réévaluation de là où elles en sont.
Comme on le disait tout à l'heure, vous êtes aussi médiatrice artistique et vous avez proposé un stage d'expression théâtrale. C'est un autre moyen, ça aussi. Comment ça s'est passé, ce stage?
Ça ne s'est pas passé.
Oh non, ça n'a pas eu lieu.
Mais ça aura lieu.
Oui, ça, il n'y a pas eu assez d'inscrits.
C'est ça. Mais en fait, j'étais aussi... J'étais aussi dans le jus complet et j'ai pas nourri, que ce soit l'appel aux inscriptions, que ce soit etc. Donc je pense que ça se fera mais en anticipant beaucoup mieux quand l'équipe s'étoffera, etc., etc. Quand je pourrais me libérer du temps, parce que là, en réalité, je suis sur les demandes de subventions, les rencontres des partenaires, le terrain, le suivi social, etc., etc. La maintenance du véhicule, tout un tas de bidules. Et en fait, je manque de temps.
Très difficile de développer des nouvelles choses.
Donc là, c'était en trop. Et donc, tant que j'ai pas le temps, pour l'instant, c'est suspendu. Mais je n'ai absolument aucun doute sur la pertinence, pour l'avoir vécu par ailleurs à d'autres endroits, sur la pertinence de ce genre de dispositif et d'expérience.
Artistique, aussi, d'expression de soi, et aussi de pouvoir peut-être relâcher un peu la pression.
Relâcher la pression, passer par du symbole, transformer, comme on peut dire, je ne sais plus comment on dit, magnifier, je ne sais plus comment on dit, transformer en quelque chose de beau. Oui. L'idée, c'est la transformation. Donc, quelque chose de beau, ce n'est pas la violence qui est beau, c'est la force de laquelle on fait preuve pour la dépasser, par exemple. Donc, il y a des choses intéressantes à explorer, j'ai aucun doute là-dessus.
Et ça se fera.
Ça viendra.
Voilà.
On ne sait pas quand, mais ça se fera.
Vous le disiez aussi tout à l'heure, Anne Okaïs, pas d'action sans réseau. Et votre prochaine actu, comme on dit, c'est le 25 mai, car vous allez faire une journée de présentation des initiatives associatives en faveur des femmes, mais sur le territoire de Dieulfi-Bourdeaux.
Oui, très spécifiquement.
Parce qu'il y a plusieurs associations.
Il y a plusieurs associations. Il y a... Déjà, on est trois à porter un petit peu cette soirée-là, et je suis sûre que j'oublie d'autres actrices ou acteurs. Mais en tout cas, on est trois à avoir lancé cette initiative. On va inviter largement, et c'est aussi pour ça qu'on a un temps d'échange à la fin, pour que celles et ceux qu'on n'aurait pas invités à venir piloter cette journée-là puissent s'exprimer, avoir la place. Donc il y a le lien 26, il y a l'association Projet Lungta, et il y a nous. Pour dire un petit peu dans les grandes lignes, le lien 26 que vous avez reçu, donc vous connaissez un peu son activité,
bien sûr.
Va lancer une espèce d'étude de terrain. J'ai du mal à nommer les choses parce que je ne suis pas précise sur ces choses-là, mais en gros, ça va être de poser un diagnostic de territoire sur la santé des femmes, enfin la santé globale.
Les conditions de vie globale.
Voilà, c'est ça que j'appelle la santé. C'est une évaluation globale de la situation des femmes sur le territoire de Dieulfi-Bourdeaux. Ça, et de repérer les acteurs de terrain et de les fédérer pour que les actions soient mutualisées et complémentaires. Donc ça, c'est leur action en faveur des femmes. Il y a Émilie et Maria qui seront vraiment sur ce sujet-là et qui vont se concentrer dessus. Le projet Lungta, l'association Projet Lungta, c'est Ludivine qui est équithérapeute, qui est installée à Bézodin-sur-Bine et qui s'est formée et qui a développé un dispositif de soutien aux femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, et qui donc va présenter son activité, qui a un premier projet qui aura lieu la première semaine de juillet, du 1er au 8 juillet, où elle va accueillir jusqu'à 7 femmes dans ce dispositif-là, donc héberger une espèce de stage de réparation. Et donc qui va présenter une vidéo, magnifique d'ailleurs cette vidéo. Donc je vous recommande, ne serait-ce que pour la vidéo, de venir de cette activité d'équithérapie qu'elle est en train de développer. Et nous, nous allons présenter notre activité là où on en est et évoquer le fait que la mise à l'abri dans le cas de violences conjugales est compliquée sur notre territoire, et donc évoquer les petites initiatives, non, elles ne sont pas petites, les initiatives qui existent et qui demandent qu'à être développées si on a des moyens, donc en profiter pour les présenter, parce que ça se fera en présence de personnes qui nous font l'honneur de leur présence, donc la députée Marie Pochon, la sénatrice Marie-Pierre Monnier, qui est très...
qui soutient votre projet, vos initiatives.
Et puis qui a fait un travail de recherche conséquent sur les femmes et la ruralité, et la déléguée à l'égalité homme-femme à la préfecture, Madame Fomvan. Il y aura également la gendarmerie de Dieulfi qui sera présente, qui nous ont confirmé leur présence, avec l'adjudant Antini qui est spécialiste aussi de ces questions-là. Donc, tout ce monde-là a une expertise de terrain, et du coup, c'est pour ça que donc, nous, on va présenter nos initiatives. On va inviter tous les partenaires, et puis après, il y aura un temps d'échange pour que chacun puisse parler de son point de vue à lui, de ses observations à lui, et échanger pour voir comment on maille nos différentes activités, comment on se donne les moyens ou pas de développer telle ou telle chose, où sont situés les besoins les plus urgents.
Et c'est tout ouvert à tout le monde.
Oui. C'est
tout
gratuit,
public,
ouvert, tout
samedi,
public.
Le 25 mai,
c'est ça,
à 18h, salle des fêtes de Bourdeaux. Merci beaucoup.
Merci
Anne
à vous.
Okaïs, je rappelle que vous êtes la responsable de Réseau Femmes à l'abri 26, donc une association qui est bourdeloise de naissance.
Exactement.
On peut suivre vos nombreuses activités sur votre page Instagram, qui est assez fournie. Est-ce qu'il y a un site web sur lequel on peut vous retrouver? Plus encore.
Si, mais il n'est pas du tout actualisé, il va être fait. Et on va en avoir un joli et
en tout cas,
fait.
Mais... la page Insta d'ici là. Et si on veut vous contacter, j'ai trouvé un numéro de téléphone. Est-ce qu'il est juste ? C'est 06 46 03 74 70 ?
Exactement.
Ça, c'est bon. Ou alors par mail réseau femmes au pluriel à l'abri 26 @gmail.com. Je vous remercie infiniment.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Cuando canto este fandango, lo recuerdo con el alma. Yo soy fruto de su árbol. Niño, la huerta se llamaba artista. Puro rango.
Radiola.media.